Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Hey, you know what? Impossible d'échapper cette semaine, et pourquoi le faudrait-il au centenaire de Claude Lévi-Strauss ? France Culture est mobilisée tout entière pour rendre à l'anthropologue, au maître des anthropologues, l'hommage enthume qu'il mérite, et rompant cette fois-ci avec l'usage, les nouveaux chemins de la connaissance participent de bon cœur à ce qui fait l'actualité. C'est de Lévi-Strauss donc, de Claude Lévi-Strauss, car il est toujours là que nous parlerons toute cette semaine en évoquant le cru et le cuit, les structures élémentaires de la parenté, race et histoire et race et culture, triste tropique évidemment. Mais avant cela, c'est-à-dire dans l'immédiat, tout de suite, Catherine Clément est notre invitée. Catherine Clément, dont nos auditeurs connaissent le talent et qui connaît par cœur l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, dont la rencontre, il y a quelques années, changea sa vie. Et Catherine Clément qui est notamment l'auteur du Que sais-je le moins impersonnel qui soit sur l'œuvre et la longue vie de l'anthropologue centenaire. Bonjour Catherine Clément.
Bonjour Raphaël Fleuven.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Alors, chère Catherine, je voudrais d'abord, pour commencer cette émission et cette semaine avec vous sur Claude Lévi-Strauss, partir de quelque chose d'étonnant, c'est vrai, parce que j'ai lu votre Que sais-je pour les besoins de cette émission, on l'a lu au Nouveau Chemin, et c'est très frappant puisque c'est un Que sais-je que vous écrivez à la première personne, et reprenant en cela d'ailleurs la question du Que sais-je, c'est Que sais-je de Claude Lévi-Strauss. Pourquoi avoir éprouvé le besoin d'écrire à la première personne dans une collection qui, elle, en principe, réprouve justement cette façon de faire ?
Eh bien, parce que je ne suis pas une disciple de Claude Lévi-Strauss. J'ai suivi ses séminaires, certes, mais ça ne fait pas de moi une disciple, ni une élève de Claude Lévi-Strauss. Je suis simplement sa fidèle amie. Donc, j'ai pensé que la seule façon de rendre compte de ce que je savais de lui était de démarrer comme ça, à la première personne, puisque les liens qui m'unissent à lui sont de cette nature-là. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des livres sur lui, mais je ne voudrais surtout pas me revêtir des vêtements de l'ethnologue que je ne suis pas. Je suis résolument philosophe.
Vous êtes résolument philosophe et lui ne l'est résolument pas.
Ah, résolument pas. Je vous le confirme, il ne l'est pas.
Il faut rappeler pour mémoire que Claude Lévi-Strauss a un peu enseigné la philosophie. Il a passé l'agrégation de philosophie.
Oui, il a fait des études de philosophie et de droit quand même. Il a passé l'agrégation de philosophie. Il a été 2 ans professeur, je crois, à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, d'où il a tiré d'ailleurs des observations formidables qui sont dans les structures élémentaires de la parenté sur l'échange des petites carafes de vin dans les restaurants du sud-ouest. Et déjà beaucoup plus ethnologue que philosophe. Et puis, il en a eu assez. Il raconte très bien pourquoi, dans Triste Tropique, il s'est lassé de ce qu'il percevait comme étant le métier terriblement répétitif de professeur de philosophie.
Alors, il y a 2 objections. Bon, on pourrait discuter là-dessus, mais ça, c'est une autre affaire et c'est une autre histoire. Mais il y a l'aspect répétitif du métier de professeur de philosophie. Il y a aussi, me semble-t-il, chez Claude Lévi-Strauss, une conception très abstraite de l'exercice philosophique. La philosophie, pour lui, s'occupe d'abstraction. Or, il avait, malgré tout, et quoi qu'il en dise, le goût du terrain.
Ça n'est pas seulement ça. Il y a une vraie... Au fond, son antipathie pour la philosophie se voit au mieux...
Vous diriez antipathie ?
Ah oui. Dans le final de L'homme nu, qui est quand même tardif, qui est une œuvre tardive. Et là, dans le final, il y a 2 pages polémiques.
Là, on est dans les mythologiques.
L'homme nu a été publié en 1971. Les derniers livres de Lévi-Strauss datent de 1996-97. Ça donne quand même une petite idée de cette... Je crois qu'elle a même été en augmentant cette antipathie. Et là, il y a des pages très polémique, très violente, sur ces philosophes qui... Alors, violent, je pense que ça représente Sartre et les existentialistes, avec qui il a eu de grandes polémiques. Mais je pense que ça reste tout de même sa perception de la philosophie. Après Sartre, et de la même manière, c'est-à-dire d'une manière que je résumerais par, en gros, fumeuse à ses yeux, et fumante, d'ailleurs, c'est la même chose. Il parle de la fumée des cigarettes, donc il décrit la fumée des cigarettes dans les cafés. Donc ça, c'est une sorte de vision un peu infernale.
Après avoir parlé du tabac des Indiens et de son rapport avec le miel sauvage, il décrit la fumée de cigarettes dans les cafés.
Lui prisait, il ne fumait pas, il prisait.
Il prisait.
Je l'ai vu priser. Donc il a été très fortement attaqué à partir de 1968, de l'automne 68 très exactement, par beaucoup, beaucoup de philosophes qui, dans les suites du mouvement de mai, ont attaqué le structuralisme et donc lui en tête. Donc ce qui était au départ une réticence est devenu une véritable antipathie.
Oui, oui. Mais c'est dire qu'il y a un véritable malentendu. Au moment de la parution de Triste Tropique, je crois que c'est même Simone de Beauvoir qui avait fait une recension enthousiaste dans Les Temps modernes, précisément.
Oui, oui.
Lui-même, d'ailleurs, a beaucoup écrit dans Les Temps modernes.
Oui, c'est, tout va bien à ce moment-là. C'est le temps de l'amitié. Et puis, je pense que ça se casse sur le fond et pas sur des... Enfin, je ne crois pas que ce soit seulement des problèmes personnels. Encore qu'on ne puisse jamais savoir, mais je ne pense pas que ce soit seulement le cas. En 1961, Sartre publie la critique de la raison dialectique. Et dans cette critique de la raison dialectique, il a une expression, il faut bien dire, horrible. Il parle à propos des peuples autochtones, d'une humanité, tenez-vous bien, rabougrie et difforme. Alors évidemment, ça Lévi-Strauss réagit. Et en 1962, dans La pensée sauvage, la dernière partie, qui s'appelle Histoire et dialectique, est une critique extrêmement stricte, extrêmement rigoureuse de la pensée de Sartre sur l'histoire. Et à partir de ce moment-là, les choses, je ne dirais pas qu'elles sont rompues, si, elles sont rompues quand même, elles sont rompues.
Et effectivement, il coupe les ponts avec Sartre à la fin de La pensée sauvage. Il dit ceci, « Les propriétés accessibles à la pensée sauvage ne sont pas les mêmes que celles qui retiennent l'attention des savants. Selon chaque cas, le monde physique est abordé par des bouts opposés, l'un suprêmement concret, l'autre suprêmement abstrait, et soit sous l'angle des qualités sensibles, soit sous celui des propriétés formelles. Mais que, théoriquement au moins, et si des brusques changements de perspective ne s'étaient pas produits, ces deux cheminements fussent promis à se rejoindre, explique qu'ils aient l'un et l'autre, et indépendamment l'un de l'autre, dans le temps et dans l'espace, conduit à deux savoirs distincts, bien qu'également positifs. Et on comprend ici que, lorsqu'il écrit La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss entend véritablement couper les ponts avec Sartre et à la faveur de ça réaffirmer la différence entre le projet philosophique et le projet ethnologique.
Oui, il y a quelque chose de singulier dans cette coupure parce qu'il s'agit bien de démolir, de détruire, on pourrait presque dire de déconstruire si Derrida avait déjà posé la déconstruction comme concept, l'idée même de sens de l'histoire. L'histoire avec un grand H est l'idée même de sens de l'histoire.
Mais l'idée même d'histoire d'ailleurs.
Non. Pas l'idée même d'histoire. Non, justement pas. L'histoire avec un grand H ou le sens de l'histoire, oui. L'histoire avec un petit H, l'histoire des historiens, certainement pas. Mais c'est le même Lévi-Strauss qui se réclame constamment de Marx. Et donc, il y a quelque chose qui est... Je ne crois pas d'ailleurs qu'il perçoive Marx comme un philosophe. Il n'a pas dans ses inspirations de grands philosophes. Il a la géologie, Marx et Freud. On ne peut pas dire que ce soit vraiment philosophique.
Non, effectivement, mais la place que Marx occupe dans son existence est une place politique. Lévi-Strauss découvre Marx quand il a 16-17 ans,
oui,
au lycée, c'est ça.
C'est pas au lycée, mais en tout cas en faisant ses études.
Mais il a toujours gardé de Marx une utilisation plus méthodologique que... Enfin, il n'a jamais été militant, si j'ose dire.
Bien sûr que si, il a été militant.
Mais marxiste
est... Mais oui. Mais oui, en 1925, il est au groupe socialiste des écoles normales supérieures. Il en est même le secrétaire.
Et on est marxiste quand on est au groupe socialiste des écoles normales supérieures.
Attendez, vous allez voir. En 1926, il publie un opuscule, une petite brochure sur Gracchus Babeuf.
Autant pour moi, je le savais
voilà,
pas.
Voilà, mais oui. Aux éditions du Parti ouvrier belge. En 1928-29, il est secrétaire général de la Fédération nationale des étudiants socialistes affiliés à la SFIO.
Oui, mais c'est dire quand même qu'il a peut-être un objectif radical, mais la méthode qu'il se propose d'employer dès le début est quand même une méthode réformiste.
Dès le début, on ne sait pas. Non. Dès le début, on ne peut pas le savoir. Ce qu'il met en œuvre quand il arrive au Brésil et qu'il se trouve confronté à cette énorme montagne de réel qui tombe sur tous les ethnologues.
On est dans les années 30, là. Hein.
En 35-38. Ouais. 1935-1938. C'est quand même l'une des articulations majeures de la pensée philosophique de Marx. Je dis bien philosophique et pas politique. C'est le clivage entre infra et superstructure. Ça, oui. Sans arrêt, il le fait sans arrêt, jusqu'au bout, dans tous ses livres, c'est indéniable.
Oui, à ceci près, peut-être que l'ambition de Lévi-Strauss, finalement, on va travailler sur sa question de ce qu'il entend par ethnologie, finalement. Est-ce qu'on peut dire de Lévi-Strauss que c'est quelqu'un qui, reconnaissant d'ailleurs ce mérite-là à Marx comme à Freud, essaie d'introduire de la rationalité dans les phénomènes sensibles ? En somme,
oui.
À tout prix, tout en préservant la sensibilité du phénomène.
Je crois que c'est Ricoeur qui a parlé d'un quantisme transcendantal sans sujet ou une formule de ce genre que je n'ai plus tout à fait en tête.
Oui, il faudrait revenir sur la question du sujet.
Oui, c'est ça, voilà. Ah, le sujet, ça c'est une position absolument bouddhique. Le sujet est voué à la dissolution. Ça, c'est ne cherchez pas le sujet, voilà son destin. C'est une position qui se tient très bien. C'est également celle des stoïciens et c'est évidemment celle des peuples autochtones. Une trilogie qui l'a fait souvent intervenir comme telle, comme trilogie, comme entité de la même nature dans sa pensée.
Et c'est, pardonnez-moi, également une position, alors je ne sais pas s'il l'a lu, une position typiquement spinoziste, celle de Lévi-Strauss.
Je ne l'ai jamais vu se servir de Spinoza.
C'est quand même un homme qui, il s'en est servi à son insu, à l'insu de son plein gré, c'est quand même un homme qui explique qu'il faut décentrer l'homme de la position théologique qui veut qu'il soit le centre du monde. Il a passé sa vie à dire ça, à l'expliquer à tout le monde, et justement à enseigner d'autres points de vue. Et c'est le même qui dit que nous sommes, comme Spinoza pouvait dire que nous étions des parties de l'entendement infini de Dieu et non pas le centre du monde, pour Lévi-Strauss, nous sommes des parties de la nature et non pas ses maîtres et possesseurs. C'est étonnant.
Je suis pas sûre que la nature, je suis même certaine que la nature...
n'a pas le même sens.
Voilà, la nature comme concept ou comme idée n'a pas la même posture dans l'œuvre de Spinoza.
Mais cette opération de décentrement...
Je pense que j'ai quand même vu l'adjectif spinoziste quelque part. Je crois que c'est toujours à la fin de l'omnium, me semble-t-il. Pardon ?
Ce décentrement, c'est l'essentiel.
Ça n'est pas un décentrement, c'est un renversement total. Tandis que Spinoza fait un pas de côté, un énorme pas de côté, mais un pas de côté quand même. Tandis que chez Lévi-Strauss, c'est un retournement absolument complet de ce qui est notre planète. Quand même, l'univers philosophique de Spinoza est limité à l'Europe. Lévi-Strauss embrasse le monde entier. Ça fait une différence considérable. Ils sont pas du même, ils n'ont pas la même amplitude non pas de pensée. La question n'est pas là, mais de vue cavalière, disons.
On peut dire que Lévi-Strauss a plus voyagé que Spinoza. Voilà. Ça c'est incontestable.
C'est tout simplement ça.
Alors justement, Lévi-Strauss était un ethnologue.
Était un philosophe d'abord.
Philosophe d'abord, on l'a dit.
Repenti ethnologue,
mais ethnologue non pas repentant en tout cas. Même si Lévi-Strauss ne cesse de revenir sur la difficulté. Le difficile rapport que les ethnologues entretiennent avec leur propre discipline, expliquant qu'ils ne sont jamais parfaitement à l'aise avec leur science. Et je voudrais justement qu'on l'entende ici répondre à Georges Charbonnier sur cette question-là, sur les problèmes qui, dit-il, préoccupent, tourmentent et torturent les ethnologues. Écoutez.
Nous ne sommes jamais parfaitement à notre aise avec notre science. C'est pas tout de même... Nous traînons autour de nous et avec nous toutes sortes d'arrière-pensées, si je puis dire, qui tiennent à ces conditions paradoxales dans lesquelles nous travaillons. Malheureusement, je le dirais, parce que c'est tout de même l'idéal, nous ne sommes pas comme ces chimistes ou ces physiciens qui ont avec l'objet de leurs études des rapports simples. Nous sommes des hommes et nous travaillons avec des hommes. Nous sommes des membres d'une société qui a employé une bonne partie de son temps et de son activité à détruire de la façon la plus horrible ces autres hommes que nous venons étudier. Enfin, nous ne sommes pas du tout à notre aise. Et par conséquent, la légitimité même de notre démarche nous préoccupe. Est-ce que nous avons le droit d'étudier comme des objets des hommes envers qui nous sommes profondément en faute en tant que membres de notre civilisation ? Est-ce que nous pouvons même, sur un plan plus désintéressé, je dirais plus objectif, est-ce que ça n'est pas absurde de croire que nous pouvons nous identifier à une société qui n'est pas la nôtre ? Après tout, nous pouvons être le meilleur ethnologue du monde, nous pouvons avoir passé notre vie dans la même société, nous pouvons parler couramment la langue, mais rien de tout ça ne fera jamais de nous un indigène. Et c'est cependant à la connaissance même de l'indigène, à la manière dont il appréhende son propre groupe social, que nous essayons de tendre. Enfin, il y a une quantité de problèmes qui nous préoccupent, qui nous tourmentent et qui quelquefois nous torturent.
Catherine Clément est avec nous aujourd'hui dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour entamer une semaine que nous consacrons à Claude Lévi-Strauss à l'occasion, mais ça n'est qu'un prétexte, du centenaire de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss aura 100 ans le 28 novembre et nous profitons de cet anniversaire uniquement pour vous présenter ses textes, son œuvre et son parcours avec vous, Catherine Clément. On vient de l'entendre parler à Jean Charbonnier du métier d'ethnologue. Avons-nous le droit, demande-t-il, d'étudier comme des objets des hommes envers qui nous sommes profondément en sans faute. Deux questions. D'abord, est-ce la première formulation, finalement, de ce qu'on a appelé la repentance, dont certains, d'ailleurs, ont vu une espèce de tyrannie ensuite? Et deuxièmement, faut-il être indigène pour être ethnologue?
Ça, c'est vraiment une question de votre temps. Vous avez bien votre âge, là, Raphaël Antoven. Quand il s'est entretenu avec Georges Chavognier, les indépendances n'étaient pas encore faites. La France n'était pas encore tout à fait décolonisée. Ça commençait.
On est en 59, oui.
Eh bien oui. Et donc les indépendances africaines, c'est juste après. L'indépendance de l'Algérie, c'est 2 ans plus tard. Donc évidemment que ça a un sens dans l'époque où il est. Si abstrait de... D'ailleurs, il n'a jamais été abstrait de son pays. Mais si retiré que soient les ethnologues, ils ne sont jamais coupés quand même de la réalité historique. Et ça, c'est la façon dont il en parle, on sent bien que c'est l'époque de la décolonisation française. C'est fondamental. Ça ne veut pas dire que la question n'ait pas de valeur ensuite, mais ça veut dire qu'elle perd de son aspect douloureux.
Mais justement, qu'est-ce que Lévi-Strauss répondrait à l'objection qu'on pourrait faire aujourd'hui à quelqu'un qui tiendrait aujourd'hui, j'entends bien, ce discours-là, c'est-à-dire 40 ou 50 ans après?
Non, je pense qu'il a...
L'objection, pardonnez-moi, juste pour formuler l'objection, qui serait de dire que ce discours est le plus paternaliste de tous, qui consiste justement à considérer que...
C'est pas son objet, c'est pas comme ça qu'il pense. Par exemple, sur l'Occident, qu'il critique depuis le début, qu'il critique depuis les pieds, le moment où il a mis les pieds, je dirais même pas au Brésil, sur la terre d'Amérique du Sud, mais sur les bateaux qui le conduisent là-bas. Donc c'est comme s'il revivait le trajet des caravelles avec une position critique, les caravelles de Christophe Colomb, j'entends, hein, avec une position critique. L'un de ses derniers livres, le dernier livre théorique en tout cas, s'appelle « Histoire de Lynx », 1991, j'ai failli dire 1996, c'est 1991. Un an avant 1992, qui a été la grande commémoration de Christophe Colomb, vous devez vous en souvenir, c'était également la commémoration de la Reconquista et la commémoration de l'expulsion des Juifs. Tout ça, chez Lévi-Strauss, est présent.
Christophe Colomb, qui est pour lui une date funeste,
oui,
d'une certaine façon, dont il parle comme d'une catastrophe.
Et comme juif, lui aussi, il a été expulsé en 1940, donc tout ça se mêle. Histoire de Lynx démontre avec la plus extrême précision comment, dans la pensée amérindienne, par couple de gémeaux successifs, de gémellités successives, arrive un moment dans l'arborescence des gémellités où il y a d'un côté l'Indien et de l'autre côté le Blanc. Et cette pensée existait, elle était préfigurée bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et c'est comme ça que Lévi-Strauss explique le fait, que, bien connu, que lorsque Cortés s'est trouvé en face de Moctezuma, Moctezuma lui a offert toutes sortes de présents. Et chaque fois que des Amérindiens sont trouvés confrontés aux Blancs, ils les ont accueillis à bras ouverts. Et pour cause, puisque la pensée des Blancs existait dans la pensée. L'idée de Blanc existait dans la pensée amérindienne. Ça, moi, je trouve que c'est fondamental. Ça permet de comprendre pourquoi l'Occident a massacré. L'Occident n'avait pas en soi, dans la pensée, on le sait d'ailleurs, hein, on sait bien que dans
la pensée... Vous voulez dire que l'Occident n'avait pas intégré l'altérité indienne alors que les Indiens connaissaient les Blancs?
L'altérité tout court. Ils ne connaissaient pas les Blancs, mais il y avait une case réservée qui s'appelait le Blanc. Il y a l'Indien et le Blanc. La case existe, elle est là. Vous ne trouverez pas l'équivalent, vous ne trouverez pas une altérité si radicale dans aucune pensée, peut-être chez les stoïciens, à l'extrême rigueur. Il faut sans doute remonter au greffe. Vous ne trouverez pas ça dans la pensée occidentale, en tout cas jusqu'à l'époque de la rencontre.
Ce que d'abord vous nous montrez, Voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité.
Ça, c'est triste célèbre. Tropique, c'est le
c'est
début.
C'est triste tropique, c'est le début, absolument. C'est l'une des dimensions du métier d'ethnologue, c'est le remords d'appartenir à un monde qui s'est rendu coupable d'en massacrer un autre. Ce tropisme, si j'ose dire, chez Lévi-Strauss, est omniprésent, traverse toute son œuvre et demeure.
Oui, sauf à dire qu'il a pris conscience aussi au retour, et il est revenu quand même assez tôt, il est revenu définitivement en France en 1948, après avoir été conseiller culturel aux États-Unis, et après avoir passé tout son exil pendant la guerre aux États-Unis, il est resté en France, a commencé à se mettre en place une perception de son propre pays et des structures villageoises qui allaient disparaître en France. Et les vrais ethnologues ont ça aussi comme démarche. Ils reviennent quand ils sont vraiment réinstallés, qu'ils ont passé cette étape que Lévi-Strauss appelle Lazare, c'est l'étape de Lazare, ni mort, ni vivant, ni de ce monde, ni de l'autre. J'étais sur le terrain, j'étais dans un monde et je suis reviens chez moi et je ne sais plus où je suis. Passé cela, l'étude de sa propre société devient impossible et c'est comme ça qu'il faut interpréter le fait qu'il soit à l'Académie française, qui est assez amusant au fond.
Inattendu, d'une certaine manière. On
pourrait, oui, enfin, si vous lisez...
Inattendu, si on fait de l'Académie française le parangon de l'Occident.
Écoutez un peu. Quand vous lisez le chapitre des Bororos dans Triste Tropique, ces hommes qui excluent toute femme et qui se couvrent de plumes dans une maison centrale qui s'appelle la Maison des Hommes, moi, je trouve que ça n'est pas sans rapport avec l'Académie française, quand même.
Ah, c'était peut-être une prémonition. C'était peut-être une prémonition de Lévi-Strauss.
Non, pas une prémonition. Mais il a certainement... Moi, il m'en a souvent parlé de l'Académie française, en me disant « c'est un club d'hommes, n'essayez pas d'y entrer, c'est un club d'hommes, voilà ».
Revenons un instant sur cette critique qu'il fait de l'humanisme. On a parlé de sa rupture avec Sartre. Tiens d'ailleurs, avant cela d'ailleurs, on va revenir sur la question de l'humanisme. En 1961, donc, la pensée sauvage, rupture avec
62.
Sartre. 62. 62. Encore plus intéressant. 62, donc, pensée sauvage, rupture avec Sartre, dernier chapitre, histoire et dialectique, il rompt avec Sartre. Mmh. Et d'ailleurs, comme Camus l'avait fait quelques années avant, hein, sur la question de l'histoire, l'idolâtrie de l'histoire chez Sartre. Bon. En 61, Sartre lui-même rédige la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon, ce texte épouvantable dans lequel il justifie la violence. Non seulement il justifie la violence, mais il en appelle à la violence, expliquant que quand un colonisé tue un colonisateur, il fait d'une pierre deux coups, il y a un homme mort et un homme libre. Texte bon, où Sartre lève une fois pour toutes le tabou de la violence et passe de l'autre côté de la barrière, d'une certaine façon. Texte que bien des gens ne lui pardonneront pas ensuite. Quelle est la position de Lévi-Strauss, qui par ailleurs a des mots extrêmement durs sur le tempérament colonial, sur l'omnipotence de l'Occident? Comment Lévi-Strauss peut-il entendre un discours comme celui-là? Est-ce qu'il est sensible à cette violence-là, justement?
Il ne peut pas l'entendre, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il est vraiment, autant qu'un grand ethnologue français de son âge puisse être bouddhiste, il l'est. Le bouddhisme suppose la non-violence et l'attention portée à tout être vivant. La meilleure preuve, par exemple, c'est qu'il n'arrive pas, il achète une petite guenon à une Nambikvara à la fin de ses voyages, et il ne peut pas s'en défaire, et donc la guenon est sur sa botte droite, et l'enquiquine tant et plus, en hurlant, poussant des cris chaque fois qu'il avance d'un pas. Cette petite histoire de rien du tout, cette guenon qu'il a appelée Lucinda, le représente très bien. C'est comme l'humanité accrochée à ses bottes, voyez-vous. Il ne lui fera jamais aucune violence, la violence n'existe pas, dans ses volitions en tout cas. Il est vraiment bouddhiste, et le bouddhisme, c'est la non-violence. Là-dessus, aucun contact avec Sartre, on n'est pas dans le même monde.
Mais alors, quel est le rapport de Lévi-Strauss avec la notion d'universel dans sa critique de l'humanisme? Parce qu'il va même parfois jusqu'à faire de l'humanisme agressif, dit-il, hérité de Christophe Colomb. Il fait selon une généalogie qui lui appartient. Hein. Il parle de cet humanisme agressif qui débouche sur les camps de concentration. Donc il va quand même très très loin dans sa critique de l'humanisme. C'est un argument d'ailleurs qu'on a réentendu ensuite plus tard sous d'autres plumes. Mais cette critique de l'humanisme, quel est le statut de l'universel pour Lévi-Strauss? Puisque on en fait finalement le penseur de la différence.
C'est le même que pour les stoïciens. Ça n'est pas notre universel. Les critiques, je crois, non seulement elles s'articulent sur la critique des deux déclarations des droits. C'est un texte qui s'appelle « Réflexion sur la liberté » et qui est repris d'une intervention qu'il a faite devant une commission parlementaire en 1976 à l'invitation d'Edgar Faure, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. C'est amusant de savoir sur quoi portait le débat. La commission parlementaire planchait sur la protection des parcs naturels en France. Les communistes voulaient faire entrer plein de monde, démocratiser. Hein. Et puis, ils ont quand même consulté un ethnologue qui leur a dit « Mais non, si vous faites entrer tout le monde, vous fichez le parc naturel en l'air. » Donc c'était ça le débat. Et out of the blue, tout à trac, Lévi-Strauss se met à formuler une nouvelle définition des droits de l'homme. Voilà comment on arrive à l'universel chez Lévi-Strauss. D'abord en montrant que la déclaration des droits de 89 et la déclaration universelle de 1948, qu'il appelle d'ailleurs internationale, bizarrement, n'ont donné que des résultats catastrophiques. Et la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits et des devoirs de l'homme, selon Claude Lévi-Strauss, peut se formuler en une seule phrase: l'homme est un être vivant. Mais ça, c'est le bouddhisme intégral, c'est-à-dire l'homme est un être vivant, toutes les espèces sont égales à lui, et donc l'universel, s'il existe, est l'universel de l'univers entier comme un gros animal, pour reprendre la formule stoïcienne. Vous voyez bien qu'on n'est absolument pas dans le même univers que l'univers d'un humaniste à la Sartre, qui est obligé de passer par la violence à l'époque.
Oui, mais cette sanctification de la vie débouche sur des difficultés politiques.
Ça n'est pas une sanctification, c'est un respect. Si vous dites sanctifier, vous êtes chrétien.
C'est parce que c'est ce qu'on entend malgré tout.
On parle de Lévi-Strauss ou on parle de
Mais justement, en parlant de Lévi-Strauss, mais vous dites l'homme est un être vivant. Faire reposer les droits de l'homme sur le fait qu'il est vivant, ça pose des problèmes en temps de guerre. C'est ça que je veux dire, c'est que ça pose des problèmes entre 39 et 45, ce genre de déclaration.
Il est vrai. Je ne peux pas vous répondre autre chose qu'il est vrai.
Quelle a été sa position pendant la guerre ?
Sa position, ça a été de fuir. Il se décrit très bien dans Tristan Tropique. Il décrit qu'il était un pauvre gibier. Il était comme tous les juifs conscients de l'époque, et comme il avait quand même traversé plusieurs fois l'Atlantique, je pense qu'il avait une perception un peu plus aiguë que mes grands-parents, par exemple, qui se sont fait prendre, parce qu'il n'y croyait pas, lui se sentait gibier. Gibier, il part. Hein, et il part sur un rafio épouvantable en embarquant à Marseille, où il retrouve André Breton et Victor Serge, qui forment le début d'un groupe qui... il a noué une amitié très forte avec André Breton. Il s'est retrouvé en 1900 à New York avec lui.
On a tout ce groupe d'exilés, des Français
partis... Oui, tout ce groupe d'exilés formidables qui, à New York, ont vraiment été une sorte de bouillon de culture extraordinaire. Mais il est donc gibier, il s'en va. C'est vrai que ça n'est pas un combattant. En parlant avec vous, je m'en rends bien compte, ce n'est pas quelqu'un qui prendrait les armes. Cela dit, je l'ai vu organiser un petit meeting dans un amphithéâtre physique à la Sorbonne, c'était en février 1968, à propos de la protection des Indiens du Brésil. On était quoi, une vingtaine là-dedans, hein ? Mais enfin, c'était un meeting. Et il s'agissait de mobiliser tout le monde pour écrire au président de la République du Brésil pour que le service de protection des Indiens soit remplacé par un organisme qui protège vraiment les Indiens au lieu de les tuer. Et ce fut fait. Donc il a quand même des capacités de mobilisation.
Et alors revenons justement à cette question d'humanisme, puisque voilà un homme qui donc entretient avec l'universel un rapport complexe. D'ailleurs, on peut s'en féliciter dans la mesure où quand on fait de l'universel une notion abstraite, en général, elle est soit impérialiste, soit belliqueuse, soit unilatérale, ou même elle-même ethnocentrée, européocentrée. Donc de ce point de vue, Lévi-Strauss, ça c'est un travers auquel il échappe. La question est de savoir s'il verse dans le travers d'en face, à savoir un différentialisme extrême ou un relativisme extrême. Je revienne avec vous, Catherine Clément, sur cette question, notamment autour de la question des cannibales. Et je voudrais qu'on entende un texte de Lévi-Strauss sur les cannibales et qu'on en discute ensuite.
Si variées sont donc les modalités du cannibalisme, si diverses ses fonctions réelles ou supposées, qu'on en vient à douter que la notion de cannibalisme, telle qu'on l'emploie couramment, puisse être définie de façon quelque peu précise. Elle se dissout ou s'éparpille dès qu'on tente de la saisir. Le cannibalisme en soi n'a pas une réalité objective. C'est une catégorie ethnocentrique. Il n'existe qu'aux yeux des sociétés qui le proscrivent. Toute chair, quelle qu'en soit la provenance, est une nourriture cannibale pour le bouddhisme qui croit en l'unité de la vie. À l'inverse, en Afrique, en Mélanésie, des peuples faisaient de la chair humaine une nourriture comme une autre, sinon parfois la meilleure, la plus respectable, qui seule, disait-il, a un nom. Les auteurs qui nient l'existence présente et passée du cannibalisme prétendent que sa notion fut inventée pour creuser encore davantage le fossé entre les sauvages et les civilisés. Nous attribuerions faussement au premier des coutumes et des croyances révoltantes afin de nous donner bonne conscience et de nous confirmer dans la croyance en notre supériorité. Inversons cette tendance et cherchons à percevoir dans toute leur extension l'effet de cannibalisme. Sous des modalités et à des fins extraordinairement diverses selon les temps et les lieux, il s'agit toujours d'introduire volontairement dans le corps d'êtres humains des parties ou des substances provenant du corps d'autres humains. Ainsi exorcisée, la notion de cannibalisme apparaîtra désormais assez banale. Jean-Jacques Rousseau voyait l'origine de la vie sociale dans le sentiment qui nous pousse à nous identifier à autrui. Après tout, le moyen le plus simple d'identifier autrui à soi-même, c'est encore de le manger. En dernière analyse, si les voyageurs dans des terres lointaines se sont facilement inclinés et non sans complaisance devant l'évidence du cannibalisme, c'est que sous cette forme généralisée qui permet seule d'embrasser la totalité du phénomène, le concept du cannibalisme et ses applications directes ou indirectes sont le fait de toutes les sociétés. Comme le montre le parallèle que j'ai tracé entre les coutumes mélanésiennes et nos propres usages, on peut aller jusqu'à dire qu'il existe aussi parmi nous.
Nothing more restful than Japanese.
Catherine Clément est avec nous aujourd'hui pour parler de Claude Lévi-Strauss dans le cadre d'une semaine, pour inaugurer une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Claude Lévi-Strauss. On parlait ici de cannibalisme, Catherine Clément, et le texte qu'on vient d'entendre, lu par Georges Claes, est un texte étonnant à triple titre. D'abord parce qu'il y parle du bouddhisme, dont vous nous montrez, Catherine Clément, à quel point il est important pour Lévi-Strauss, son rapport à la vie notamment, le stoïcisme et le bouddhisme, parce qu'il donne une définition du cannibalisme qui est étrange, c'est assez large finalement. Il dit qu'il s'agit d'introduire dans le corps d'êtres humains des parties ou des substances provenant du corps d'autres êtres humains.
Mais c'est la vérité absolue ? Où est le problème ?
À ce compte-là, l'acte sexuel est du cannibalisme.
En partie, oui. Il y a des peuples autochtones pour qui ce que vous dites est vrai. Mais moi, j'ai compris ce que c'était le cannibalisme, les entours du cannibalisme, en voyant des Indiens, des Indiens de religion hindoue, confrontés à l'absorption de viande sans qu'ils le sachent. Ils sont pris de spasmes extraordinairement violents parce que l'animal qu'on appelle vache, je l'appelle la vache sacrée, mais enfin, comme la vache sacrée a pris une tournure métaphorique différente en France, je précise, est considéré est l'égal d'animal. Donc nous sommes, aux yeux des Indiens, de certains hindous, nous sommes nettement plus cannibales que d'autres peuplades.
C'est justement le point sur lequel je voulais venir, oui. Catherine.
Je ne connais pas Raphaël Lantovac, je ne connais pas à l'heure actuelle d'ethnologue français qui soit relativiste. Il y en a, à ma connaissance, ou alors des très vieux, hein, mais pas Lévi-Strauss en tout cas. Il y a eu une vague comme ça dans les années 70, d'ailleurs à la suite du mouvement de mai 68. Mais moi je n'en connais pas. Je le sais d'autant mieux que je pose la question chaque fois, que je les mets dans des situations à l'Université populaire du Quai Branly où ils pourraient prendre des positions relativistes et que, où chacun d'eux, systématiquement,
réaffirme un certain nombre de principes.
Dit, je ne suis pas relativiste. Donc il faut être clair là-dessus. C'est une position mentale qui, je crois, n'existe plus chez les anthropologues.
Mais alors, allons au-delà justement de cette position.
Probablement d'ailleurs parce que la mondialisation l'a fait aussi éclater.
Mais alors, allons au-delà justement de cette position mentale, puisqu'il faut récuser à la fois l'idée de principe, l'idée de valeur absolue, en somme, telle que l'Occident serait le dépositaire, et d'autre côté, l'idée d'une espèce de relativisme général selon lequel tout se vaudrait.
N'allez pas lutter contre les fantômes.
Regardez, Montaigne, dans le chapitre 31 des essais, du livre 1 des essais, chapitre sur les cannibales, justement. C'est un chapitre en général que les élèves de terminale brandissent pour dire le relativisme de son scepticisme devient relativiste, il faut quand même avoir des valeurs dans la vie, parce que Montaigne dit que les cannibales ne sont pas pires que nous, et quand même il exagère. En général, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas lu ce chapitre. Et quand on lit ce chapitre, on s'aperçoit d'une chose tout à fait étonnante, c'est que Montaigne ne dit pas que les cannibales et nous sommes dans la même position, ou sommes comparables, il dit que nous sommes pires qu'eux. Mmh. Car il dit ceci, c'est Montaigne qui parle. « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et géhennes un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons lu et vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. À tout prendre, une culture qui tue un homme pour le manger est une culture qui vaut mieux qu'une culture qui fait rôtir un homme non pas pour le manger, mais parce qu'il n'a pas le même culte que nous.
Exactement, c'est la suite des guerres de religion. Jean de Léry, qui est une des grandes adorations de Claude Lévi-Strauss, et qui a un destin bien plus extraordinaire que Montaigne, je ne dis pas que c'est un plus grand philosophe du tout, mais qui a un destin extraordinaire puisqu'il a participé à l'expédition de Rio, il était à la naissance de Rio de Janeiro, dans la petite France, au Brésil. Jean de Léry dit des choses comme ça, et Jean de Léry a été étroitement mêlé aux guerres de religion. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'exil, sur le fait que Lévi-Strauss avait été gibier juif, parce que c'est une chose qu'il a vécue de l'intérieur. Il connaît cette gibier quand même, ça veut dire qu'on peut être bouffé, hein.
Mais quel est son rapport au judaïsme ?
Alors, c'est un mauvais rapport. Et ça,
c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, depuis 48 ans que je le connais, c'est une position qui ne change pas. L'année dernière encore, il m'en parlait. Ça lui dit rien, le judaïsme. Je crois que ça vient de ce qu'il a très bien décrit dans Triste Tropique. Il y a une très belle description du passage entre la synagogue où son grand-père était rabbin de Versailles, un de ses grands-pères était rabbin de Versailles, et puis la salle à manger familiale, qui était terriblement austère, et où il y avait une banderole, en effet c'est dissuasif, imaginez un mouflet devant ça, il y avait une banderole disant « mastiquez bien vos aliments, votre digestion en dépend ». C'est sûr que si vous avez ça au-dessus de la tête, ça vous coupe l'appétit. Donc je pense qu'il a eu une vision du judaïsme très austère. Je n'ai jamais vu chez lui d'attirance pour les parties joyeuses de la religion juive, pour la fête des Lumières, pour la fête de Hanouka, pour tout ce qui peut être joyeux, un peu désordonné dans la religion. Ça jamais. Non, il reste très attiré par les... Quand même, je trouve, par là où il y a du poil et de la plume dans le costume. Voilà, c'est quelque chose qui me frappe.
Mais à quoi cela tient finalement ? Est-ce que ça tient, est-ce que c'est une dilection personnelle ou quelque chose qui rompait avec l'ennui universitaire des années 30 que... Ou est-ce que ça correspond à une volonté chez lui de sentir et comprendre simultanément les choses ? À quoi ça correspond ? D'où ça vient ?
Voulez-vous qu'on fasse un tout petit peu d'anamnèse sans aller jusqu'à l'analyse au sens propre du terme ?
C'est de ressouvenir donc, hein. Allons-y.
Oui, de ressouvenir en très ancien. C'est un garçon qui naît dans une famille d'artistes. Son père est portraitiste, son arrière-grand-père Isaac Strauss était l'un des collaborateurs d'Offenbach et il a été nourri.
Chef d'orchestre donc.
Chef d'orchestre, non mais compositeur aussi. Il était l'arrangeur d'Offenbach hein, et violoniste. Il était surtout, avant d'être chef d'orchestre, il était violoniste. Et il a fait l'arrangement du quadrille d'Orphée aux Enfers. Donc il y a dans cette famille la quintessence de la culture européenne. C'est exactement celle-là qui va être massacrée par la Shoah. Il lui-même est doué pour le dessin. Tous les dessins de Triste Tropique sont de lui. Hein, il a fait des décors d'opéra. Je parle de Lévi-Strauss. Là. Donc, et en même temps, c'est le même petit garçon qui a un odorat, une oreille, mais surtout un odorat et une vue qui le rattache très directement à la nature, ce qu'on voit très bien dans la description des promenades.
On va justement entendre avec vous, Catherine Clément, une émission qui s'appelait « Réflexion faite » du 31 juillet 1974, dans lequel, à la question de savoir quelle méthode Lévi-Strauss met en œuvre, il répond qu'il ne s'agit pas de dissocier le sensible de l'intellection, mais qu'au contraire, il faut sentir et comprendre simultanément la simultanéité de la sensation.
Mais d'abord sentir.
Eh bien, alors on va voir ce qu'il en dit, et puis on va voir surtout si on peut faire un parallèle entre ça et ce qu'il dit plus tard de la diversité, de la question du progrès.
Je ne dirais pas qu'il faut sentir d'abord sans chercher à comprendre, je dirais plutôt, enfin, qu'il faut toujours simultanément à la fois essayer de ressentir et essayer de comprendre. Et ça me paraît indispensable en matière de mythologie, puisque tout le sens de mon entreprise, si elle en a un, c'est d'avoir essayé de montrer qu'au moyen d'un monde de qualité sensible, les mythes parvenaient à construire des systèmes logiques. Non pas du tout avec des idées abstraites comme fait la réflexion scientifique, mais en partant des données les plus élémentaires des sens, enfin, le matériau même de la logique des mythes est formé d'oppositions, oppositions entre le cru et le cuit, le bouilli et le rôti, le frais, le fermenté, le pourri, l'humide, le sec, le haut, le bas, le près, le loin, et ainsi de suite. Et si nous n'essayons pas, évidemment, d'appréhender ces qualités et leurs nuances de la même façon que les peuples qui les mettent en œuvre les ressentent eux-mêmes, et pour ça il faut faire appel à toutes les données de l'ethnographie. Enfin, quand nous voyons dans un mythe opposé d'une façon qui semble pleine de signification la viande rôtie et la viande bouillie, pour nous ça apparaît insignifiant, nous n'y prêtons plus attention. Bon, mais nous voyons que dans le mythe, ça joue un rôle essentiel. Ben, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça représente pour eux dans leur culture ? Et donc faire toute une recherche qui nous entraîne dans les moindres détails, les moindres nuances de la vie pratique des populations considérées.
Entrer dans les moindres détails, les moindres nuances d'une vie pratique.
Je voudrais vous raconter une histoire à ce propos, si
allez-y,
vous voulez.
Catherine Clément.
Bien, un soir, j'ai dîné chez lui. Et j'ai demandé à
lui, c'est Claude Lévi-Strauss, lui, je le rappelle pour l'auditeur. Excusez-moi. Qui nous retrouve à l'instant, et vous, Catherine Clément, qui êtes venue nous en parler. Allez-y.
Voilà, ça devait être dans les années 70 à peu près. Et j'ai demandé à me laver les mains. Et quand je suis revenue, il m'a demandé si je m'étais lavé les mains en fermant la bonde de l'évier ou en la laissant ouverte. Et je lui ai demandé pourquoi, bien sûr. Je n'étais pas seule à ce dîner. Et donc, on s'est tous demandé pourquoi. Il était sur la piste, je ne sais pas s'il l'a prolongé ensuite, d'une observation selon laquelle les gens du Nord laisseraient la bonde fermée ouverte et les gens du Sud laisseraient la bombe ouverte. Pour, ceci pour montrer que le moindre détail est vraiment le moindre détail.
Et alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que peut-être l'unique principe, disons une espèce de valeur émergente au fil de son travail chez Claude Lévi-Strauss ne serait pas l'écologie ? Tout simplement. Est-ce que Lévi-Strauss ne serait pas le premier écologiste ou le premier des écologistes ?
Avec René Dumont, quand même, on est obligé de le dire.
Non, mais chronologiquement, oui. Logiquement, ontologiquement, est-ce qu'il n'est pas le premier des écologistes ?
Ontologiquement, vous avez tout à fait raison. Oui, il est le premier penseur écologique conséquent, cohérent, bien sûr. Mais le bouddhisme l'est. C'est bien pour ça que j'insistais tant sur le bouddhisme. Oui, bien sûr. C'est celui qui... Ce qu'il dit devant le Parlement français, enfin la commission parlementaire en 1976, quand on le relit à la lumière des événements récents, c'est visionnaire. Il est absolument visionnaire. Donc oui, bien sûr que oui, il est de ce genre. Mais pour en revenir à ce que vous aviez dit sur la violence, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une guerre. La non-violence faisant partie du lot, je pense que je ne crois pas me tromper en disant cela, parce que là, j'interprète un peu sa pensée, mais il me semble que sa vision de l'anthropologie, c'est que c'est une science de la paix.
Une science de la paix au sens...
Qui permet de faire la paix, si on comprend mieux.
Il s'agirait de ne pas détester, de ne pas juger, de ne pas haïr, mais de comprendre.
Oui, c'est-à-dire que
Spinoza, encore.
Oui. Oui, mais Spinoza, vous êtes mignon. Spinoza n'était pas, était reclus dans son coin et n'avait pas l'ampleur des autres mondes.
Donc il n'en est pas moins le philosophe de la paix, Catherine Clément, de ce point de vue. Ce que je veux dire, c'est que...
Pas le seul, Kant aussi.
C'est moins efficace, mais on aurait là-dessus de quoi parler beaucoup. Mais alors, donc, revenons sur cette question écologique. Je voudrais qu'on entende Claude Lévi-Strauss répondre à Bernard Pivot. On est donc dans Apostrophe, hein, on est en 84, et la question est de savoir si devenir écologiste n'est pas la plus grande leçon qu'un ethnologue peut tirer de son métier, et surtout de savoir ce que signifie être écologiste. Écoutez.
Est-ce que les ethnologues n'ont pas été, avant tout le monde, les premiers écologistes ?
Je pense que c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'école de peuples qui eux-mêmes sont des écologistes, qui ont réussi au prix de toutes sortes de pratiques que nous jugeons superstitieuses et avec un peu de dédain, mais à se maintenir en équilibre avec le milieu naturel. Vous savez, quand parmi ces peuples que nous étudions, comme ceux d'Amérique du Sud et également du Nord, il existe des croyances en un maître des animaux qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire. Quand, pour cueillir la moindre plante médicinale, il est nécessaire de faire d'abord des offrandes à l'esprit de cette plante. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés. Et certains peuples ont même cette croyance que le capital de vie qui est à la disposition des êtres fait une masse. Et par conséquent, chaque fois qu'on en prend trop dans une espèce, on doit le payer aux dépens de la sienne propre. C'est pas comme chez un banquier où on a le compte qui vient au rouge. Eh bien, tout cela, bien sûr, frappe l'ethnologue et lui montre à quel point une façon, je dirais, sensée pour l'homme de vivre et de se conduire et de se considérer non pas comme nous l'avons fait depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, et depuis la Renaissance aussi, comme les seigneurs et les maîtres de la création, mais comme une partie de cette création que nous devons respecter, puisque ce que nous détruisons ne sera jamais remplacé, et que nous devons transmettre tel que nous l'avons reçu à nos descendants. Ben ça, c'est une grande leçon, je dirais presque que c'est la plus grande leçon que l'ethnologue peut tirer de son métier.
Mais vous pensez que vous avez une chance d'être entendu ? Que l'homme renonce à être le seigneur de la création ? Vous y croyez ?
Non. Très franchement, je n'y crois pas, et c'est pour ça que je ne suis pas optimiste et que je ne me sens pas très à l'aise dans la société ou dans la civilisation où je vis.
Ça, c'est vrai qu'il ne se sent pas à l'aise dans le monde où il vit. Ça, c'est vraiment très profondément vrai. Ça n'est pas une pause.
Et c'est fou à quel point cet homme qui est ce philosophe dissident, comme Michel Foucault l'était d'ailleurs, ces deux dissidents de la philosophie poussent à l'extrême la logique ou la volonté paradoxale de penser autrement, c'est-à-dire penser selon d'autres catégories que les siennes. Et le décentrement, ils le poussent et se l'appliquent à eux-mêmes. Je suis fasciné par le parallélisme, en somme, entre les deux positions, celle de Lévi-Strauss d'un côté et celle de Michel Foucault de l'autre.
Je la vois moins que vous. Je la perçois moins nettement que vous. Mais parce que Michel Foucault est quand même resté très profondément occidental, alors que Lévi-Strauss, le fait est qu'il n'est plus tout à fait seulement occidental. C'est un peu un mutant.
Mais la grammaire qu'il emploie est encore la grammaire de l'Occident.
Ah oui,
il dit
l'homme. Bien sûr, oui.
Pardonnez-moi, il dit l'homme. Or, si on est Lévi-Straussien, l'homme, on ne l'a jamais croisé. Hein. On croise des individus, des Indiens, des Français, des Italiens, mais on n'a jamais croisé l'homme. Il dit
si,
l'homme.
Si, on croise l'homme, puisque dans chaque peuple...
Où est-il alors?
Écoutez, dans chaque peuple autochtone, il le dit très bien dans race et... Attendez, je ne me trompe pas. Je crois que c'est race et culture. Je ne sais plus si c'est race et culture ou race. Il dit très bien que chaque peuple autochtone a une définition de l'homme. Et l'homme, c'est moi, et l'ennemi, c'est l'autre. C'est assez simple, mais on ne peut pas dire. C'est assez simple et c'est assez répandu. Je ne dirais pas universel, mais largement répandu. Donc, on ne peut pas dire que ce soit individualisé. Non, c'est le contraire. Comme le disait mon ami indien Sudhir Kakar, citant d'ailleurs quelqu'un d'autre dont je ne connais pas le nom, je sais qu'il l'a emprunté quelqu'un d'autre, ça n'est plus l'individu, c'est le dividu.
Le dividu.
Oui, on n'est plus dans l'individu, on est dans le dividu.
C'est-à-dire
le collectif, c'est une autre façon de dire le collectif.
Et quel est le statut dans cette conception? On va terminer là-dessus, Catherine Clément, quand même. Mais quel est le statut dans ce rapport qu'il entretient à une diversité qui ne serait pas réductible à une unicité synthétique, ou à un concept unique, à une idée globale, englobante? Quel est le statut de l'idée de progrès chez Lévi-Strauss?
Très, très catastrophique.
Quelle place fait-il au
catastrophique.
Progrès cette idée... C'est une involution? Il est rousseauiste jusque-là?
Oui, il est rousseauiste jusque-là. C'est une idée catastrophique. C'est sur ce point précis que se porte le maximum de pessimisme, alors que je l'ai vu moins pessimiste sur d'autres choses. Mais là, sur le progrès est destructeur. Et le progrès, c'est-à-dire la conquête, c'est-à-dire la traversée atlantique, des caravelles ont détruit des civilisations en nombre, en masse, par millions, dans les deux Amériques, celle du Nord et celle du Sud. Et le progrès, et surtout la communication, détruit ce qui peut rester de culture ailleurs. Le trop-plein de communication. Vous pensez bien, il a écrit ça avant Internet, et il le pensait avant Internet.
Oui,
donc vous
disait,
imaginez, maintenant.
Il disait d'ailleurs en 1972, il disait que l'époque où les lettres mettaient plusieurs semaines à parvenir à son destinataire, à ses destinataires, à leur destinataire, était une époque certainement où les choses étaient plus en équilibre qu'aujourd'hui, disait-il en 1972.
Oui. Mais c'est tout de même. Et néanmoins, il regarde des vieux films sur, je dirais pas la TNT, parce qu'il m'a dit ça bien avant que la TNT existe, sur des chaînes de cinéma. Donc il n'est pas réfractaire à l'utilisation des matériaux techniques. Il utilise des choses modernes. C'est une habitude presque un tic de pensée.
Merci infiniment, Catherine Clément, d'être venue nous parler de Claude Lévi-Strauss.
Merci à vous.
Alors, je rappelle, c'est très important que c'est vous qui avez organisé, les lectures de Claude Lévi-Strauss au Quai Branly, qui sont prévues donc, au musée du Quai Branly le 28 novembre à l'occasion de son centenaire, autour de 5 piliers que vous avez ainsi conçus, le pilier voyage, famille et parenté, efficacité symbolique, humanisme et humanité, et enfin le dernier pilier, pensée sur le terrain, qui résume peut-être d'ailleurs toute son ambition.
Piliers qui sont dans les collections du musée. Nous allons lire dans les collections du musée de 13 à 21h.
Tout un programme. Je rappelle aussi, Catherine Clément, que vous êtes l'auteur du Que sais-je, le moins impersonnel qui soit, sur Claude Lévi-Strauss, paru en 2003. Un Que sais-je écrit à la première personne, c'est assez rare pour le signaler et c'est fort bien écrit. cette semaine, chers auditeurs, sur notre site internet dont vous pourrez vous servir comme d'une banque de données, vous trouverez en ligne les références des ouvrages de Claude Lévi-Strauss, de nombre de ses biographes, de travaux qui lui sont consacrés. À la technique aujourd'hui, j'étais Bruno Gagnère, à la réalisation Marie-Ange Garandeau, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Gabriel Alperne et Léonore Clovis, à la musique Richard Wagner. France Culture, il est 17h50, vous avez rendez-vous tout de suite avec le regard d'Albert Jacquard.